بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Suite des commentaires sur le hadith numéro 9. On va le relire. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc Abu Huraira rapporte avoir entendu le prophète عليه السلام dire: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Abu Huraira dit: j'ai entendu le prophète de Dieu dire: quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement à cause de leur abondance ou à cause de l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. On avait dit que ce hadith, on pouvait le diviser en deux parties. La première partie, c'est celle qui parle des interdits et des obligations. Et la deuxième partie, l'abondance de questions dans le domaine religieux, ou des questions en fait excessives, tirées par les cheveux, ou les questions qui n'ont aucun intérêt, qui ne conduisent pas à une pratique. Ça sera le deuxième sujet de notre propos la prochaine fois. On avait dit, souvenez-vous, que ici, le prophète alayhi salam, dans le style qu'il a utilisé, il a fait allusion à une différence. Il existe une différence entre l'interdit et l'obligatoire. L'interdit, le prophète a dit: quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en. Il n'a pas dit dans la mesure de vos possibilités. Il a dit: il faut s'en écarter. Et c'est comme s'il n'y avait pas de dérogation, de souplesse dans l'interdit. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. On avait dit que l'interdit, c'est en islam toujours, ce qui est interdit, c'est quelque chose qui est mauvais pour nous, à titre personnel, ou à titre général, c'est-à-dire à l'échelle sociale. Et les interdits, il faut absolument s'en écarter, parce que si on les transgresse, non seulement on se fait du tort, mais on fait aussi du tort aux gens. Donc il n'y a pas tant de souplesse dans l'interdit. Parce que l'islam veut nous protéger de quoi? Des nuisances, des effets néfastes de nos actions et de ce qui pourrait engendrer des problèmes dans notre vie personnelle ou dans notre vie sociale. L'obligatoire, c'est quelque chose qui demande un effort. Et généralement l'interdit, il est toujours dans la mesure de nos possibilités. L'interdit, il est toujours à notre portée. Quand Dieu nous interdit, chez nous musulmans, de boire le vin, c'est pas la mer à boire. C'est-à-dire, c'est pas impossible. Il suffit de s'en écarter. Maintenant, quand on en boit, on devient alcoolique, effectivement, c'est dur de revenir. Mais si on respecte ce principe ou ce précepte de s'écarter de l'interdit, tant qu'on n'y goûte pas, il sera toujours plus ou moins facile de s'en écarter. Maintenant, quand on y goûte, c'est pas facile de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'ici le prophète a dit, et ça, on en a fait allusion aussi dans le cours dernier, le prophète n'a pas dit: ce que je vous ai interdit, ne le transgressez pas, ne le faites pas. Il a dit: éloignez-vous-en. Et c'est comme si l'interdit, il faut toujours qu'il y ait entre nous et celui-ci une distance, comme un feu. Il ne faut pas attendre de mettre sa main dans le feu pour souffrir ou pour ressentir la brûlure, mais il faut s'en écarter. Donc c'est une politique, on a dit, dans l'interdit, il y a toujours de la prévention. Il y a toujours de la prévention, s'écarter. L'obligatoire, comme il demande un effort, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, hein, cet impôt, cette taxe, et les autres obligations familiales, sociales, humanitaires, etc. Ça demande un effort, c'est pas facile. Donc, comme c'est pas facile, ça demande un effort, forcément, on va trouver des contraintes dans la vie quotidienne. Et nous, on a voulu simplement illustrer ce qu'a dit le prophète à travers un exemple, c'est celui de la prière. Parce que il s'agit d'un pilier, et comme il se répète tous les jours à 5 reprises, eh ben, on rencontre des difficultés, surtout dans notre société. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est parler des ablutions et de la prière. Et le but, c'est pas de faire un cours théorique, juridique, mais le but, c'est quoi? C'est d'essayer d'apporter des facilités, des solutions aux gens qui ont du mal à faire leurs ablutions et à prier dans leur vie quotidienne. Comment? Non pas en parlant de la prière et des ablutions dans leur forme parfaite, complète, mais en parlant du minimum. Parce que quand on parle toujours de ce qui est le mieux, l'idéal, parfois on trouve du mal à l'accomplir, parce que c'est un idéal. C'est-à-dire accomplir la prière en étant concentré à 100% et en faisant les gestes de manière parfaite. Ça, c'est l'idéal. Et on invite les gens à cheminer vers cet idéal. Mais la réalité nous rappelle que c'est pas toujours comme ça. Au contraire, bien souvent, l'idéal, il est difficile à atteindre. Et donc, il nous faut absolument parler du minimum. Et quand on parle du minimum, on se rend compte de la facilité en islam. Donc on va parler du minimum, mais aussi de quelque chose de très important en islam, c'est les dérogations, les exceptions. Donc il y a un minimum, et ensuite il y a mieux que ça. Dans la facilité, c'est des exceptions. On va commencer par les ablutions. Alors les ablutions, d'abord, pour que vous vous rendez compte de la facilité, je vais d'abord vous parler des ablutions de manière parfaite. Et ensuite, je vais vous parler des ablutions minimales. Alors, je crois que vous le savez tous, la manière parfaite de faire ces ablutions, c'est d'abord d'émettre l'intention de faire ces ablutions, parce que c'est une adoration, et de toute manière, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire émettre l'intention de faire ces ablutions. Tous ceux qui font leurs ablutions, ils ont l'intention d'adorer Dieu. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ce genre de geste comme ça, pour s'amuser, ou bien dans un autre but que celui de prier, de se préparer pour la prière. Donc l'intention, c'est quelque chose d'évident. Ensuite, et là je vais mélanger ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, et ce qui est de l'ordre de la perfection. Je vais parler de tout. Donc j'ai le robinet devant moi, ou bien le récipient d'eau. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je dis Bismillah. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Avant chaque acte de bien, on est invité de le débuter par Bismillah. Donc Bismillah, ensuite je rentre ma main droite et je lave mes deux mains à 3 reprises. D'accord? Et mieux que ça, ne pas rentrer ses mains dans l'eau, mais verser l'eau sur ses mains. D'accord? Ça, c'est vraiment le top. C'est-à-dire, et là, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des robinets, donc on ne rentre plus ses mains. L'eau tombe. Donc on ouvre le robinet, on lave ses mains 3 fois, en ayant dit Bismillah. Et ensuite, on rince sa bouche 3 fois. Ensuite, on rince son nez 3 fois. Donc en prenant l'eau comme ça, on inspire et on expire à l'aide de ses doigts de la main gauche à 3 reprises. Ensuite, on lave son visage 3 fois également. Ensuite, on va laver ses mains et ses bras, c'est-à-dire de l'extrémité des doigts au coude y compris, inclus, 3 fois. Et de préférence, en faisant passer, en rinçant l'espace qui est entre les deux doigts, hein, en faisant comme ça. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc 3 fois, la main droite, ensuite la main gauche. Ensuite, on essuie la totalité de ses cheveux. Donc nos mains sont mouillées. Hein, et on fait comme ça une fois et on revient. Ensuite, on essuie ses oreilles une fois. Et on finit par laver ses pieds lavez le pied droit et ensuite le pied gauche, jusqu'aux chevilles inclus. Et de préférence, en faisant passer l'eau entre ses orteils. Et à la fin, on clôture nos ablutions en disant la shahada, puisque dans un hadith, il est rapporté que le prophète alayhi salam a dit « Celui qui accomplit ses ablutions de manière complète, parfaite, en s'appliquant, et qu'il dit la shahada, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes. Il entre par celle qu'il veut. » D'accord ? Donc la shahada à la fin de ses ablutions. Voilà. Si on a fait ça, eh ben on l'a fait de manière parfaite. Maintenant, il n'est pas toujours dans nos possibilités, dans nos capacités d'appliquer nos ablutions comme on vient de le décrire. Maintenant, on va parler du minimum. Et ce minimum, il ne faut pas en faire une règle. Ce minimum, on va l'utiliser comme un joker quand on est en situation difficile, quand on est pressé. Parce que faire le maximum, c'est forcément plaire à Dieu, à son prophète, ressembler au prophète, parce que le prophète, il a toujours, enfin toujours, de manière fréquente, il faisait ses ablutions comme on vient de le dire. Et le minimum, il l'a fait pour l'enseigner à sa communauté, en situation de difficulté. La méthode ou l'application minimale, c'est de se réduire à ce qui est obligatoire. Et l'obligatoire, c'est ce qui est cité dans le Coran. On a un verset dans Surat Al-Ma'idah qui détaille les obligations des ablutions. Qu'est-ce que nous dit Dieu ? Lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, lavez votre visage, lavez vos bras ou bien vos mains, essuyez vos cheveux et lavez vos pieds. Donc ça fait 4. Donc les 4 membres qu'il faut absolument laver ou essuyer, selon, c'est le visage, les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire les bras y compris, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus, essuyer ses cheveux et laver ses pieds. Donc, ce qui veut dire que le facultatif, c'est de commencer par les mains, de rincer sa bouche, son nez et d'essuyer ses oreilles. Ça, c'est facultatif. Donc, l'obligatoire, c'est de laver son visage et le verset ne parle pas de 3 fois. Il a dit « lavez votre visage ». Autrement dit, une fois que tu l'as lavé, c'est bon. Il n'y a pas mention ici d'un nombre de fois précis. Non, c'est plutôt le prophète qui nous a enseigné de le faire 3 fois. Mais le minimum, c'est de laver son visage complètement une fois. Si tu l'as lavé une fois, c'est bon. Si tu as lavé tes bras en commençant par l'extrémité de tes mains, de tes doigts, jusqu'au coude, y compris, une fois, droite et gauche, c'est bon. Maintenant les cheveux. Ici, Dieu a dit les cheveux. Alors certains savants disent c'est la totalité des cheveux et d'autres disent c'est une partie des cheveux. Oui, certains savants disent il suffit d'essuyer une partie de ses cheveux. Et je pense que cet avis, on peut l'utiliser en cas de difficulté ou bien en cas de besoin si vous voulez. La précaution, ça serait d'essuyer tous ses cheveux. Mais parfois, comme certaines de nos sœurs qui sont voilées, et qui sont à l'extérieur et qui veulent faire leurs ablutions. Elles ne peuvent pas retirer leur voile. Donc, pour elles, il est plus facile, évidemment, de rentrer leurs doigts sous leur foulard et d'essuyer une mèche de leurs cheveux. Ou bien celui qui met du gel. Parmi les garçons, celui qui met du gel pour aller au travail, s'il essuie tous ses cheveux, il va retirer son gel. Ou bien celui qui se coiffe tout simplement. S'il passe toutes ses mains dans ses cheveux, il va se décoiffer. Donc il lui suffirait pour lui, pour préserver la beauté de ses cheveux, sa coupe si vous voulez, son élégance, d'essuyer une partie de quoi ? De ses cheveux. Ou bien une personne qui travaille, qui a un casque, ou une personne qui a un bonnet, hein, que ce soit dans le domaine médical ou dehors quand il fait froid, un bonnet, donc il lui suffirait de quoi d'essuyer juste une partie de ses cheveux. Le visage, bon, le visage, les limites du visage, hein, ce sont les limites naturelles, c'est-à-dire à partir des cheveux, au niveau du front, hein, à partir des cheveux, puis on descend comme ça, voilà, ça c'est le visage. Maintenant, celui qui a une barbe, si sa barbe elle est touffue, épaisse, on ne voit pas sa peau, il passe au-dessus de ses poils. Pas besoin de faire pénétrer l'eau hein, en exagérant comme ça jusqu'à la peau. Il suffit de faire comme ça. Voilà. Donc une partie des cheveux. Et ensuite, il nous reste les pieds. Mais vous avez aussi une facilité dans les pieds. Hein, qu'il faut aussi évoquer parce que effectivement, c'est une souplesse. C'est d'essuyer sur ses chaussures ou bien ses chaussettes. Pour essuyer sur ses chaussures ou ses chaussettes, il faut les avoir enfilées en ayant ses ablutions. Par exemple, le matin, avant de partir à l'école ou au travail, je sais que durant toute la journée, je n'aurai pas l'occasion de faire mes ablutions normalement, à tête reposée, dans un cadre privé. Donc, je fais mes ablutions le matin, j'enfile mes chaussettes et mes chaussures, et toute la journée, du matin au soir, c'est-à-dire de quoi accomplir 5 prières, je peux essuyer mes chaussures, sans les retirer. Et je prie comme ça, avec mes chaussures. Ou bien mes chaussettes, si j'ai retiré mes chaussures, j'essuie sur mes chaussettes. Et je prie sans retirer mes chaussettes. Ça aussi, c'est une facilité. Ce qui veut dire que le minimum et le plus facile, ça serait de laver son visage une fois, de laver ses bras une fois, d'essuyer une partie de ses cheveux et d'essuyer ses chaussures ou ses chaussettes. Donc c'est pas compliqué, ça prend 2 minutes, c'est assez discret, donc c'est plutôt simple. Alors, ta question en fait... Oui, ta question, je vais y répondre en posant une question plus générale. Le fait d'essuyer sur ses chaussettes ou ses chaussures, ça s'appelle une dérogation. C'est ça ? Parce que la règle, c'est de laver ses pieds. La dérogation, la facilité, c'est d'essuyer ses chaussettes ou ses chaussures. Maintenant, les savants se sont posé une question. Est-il mieux d'appliquer la règle ou bien d'avoir recours à la dérogation ? C'est une question qu'ils se sont posées. Ils ont divergé. Certains disent le mieux, c'est la règle. D'autres ont dit le mieux, c'est la dérogation, de prendre la dérogation. Mais sur quoi s'appuie-t-il ? Il s'appuie sur le propos du prophète qui dit Dieu aime autant qu'on applique ses règles que ses dérogations. Et le prophète, alayhi salam, qui est notre exemple, en voyage, en temps de jeûne, la règle c'est quoi ? En temps de jeûne, c'est de jeûner. La dérogation quand on est en voyage ou quand on est malade, ça c'est même une nécessité, mais quand on est en voyage, la dérogation c'est quoi ? De ne pas jeûner. Le prophète, alayhi salam, un jour, en voyage pour la Umra, sa femme Aïcha dit au prophète, « Ô prophète, j'ai jeûné et toi tu as rompu ton jeûne. J'ai prié de manière... j'ai fait mes prières de manière totale, c'est-à-dire que je n'ai pas raccourci, écourté mes prières, parce qu'en temps de voyage, je peux prier 2 au lieu de 4. Moi, j'ai prié 4. Donc elle dit au prophète, moi j'ai pris la règle, et toi tu as pris la dérogation. N'est-ce pas ? Le prophète lui a dit, « Ahsanti ya Aïcha, tu as bien fait Aïcha. » Mais il lui a dit, « Tu as bien fait. » Ça ne veut pas dire qu'elle a fait mieux que le prophète, puisque le prophète fait toujours mieux que tout le monde. Elle a bien fait. Le fait de prendre la règle, c'est bien. Mais le prophète a voulu enseigner aux gens qu'il est aussi bien, comme il l'a dit hein, de manière explicite dans le hadith qu'on a cité avant, il est aussi bien aux yeux de Dieu de prendre la dérogation que de prendre la règle. Donc au final, tu es libre de faire ce que tu veux, mais ne fais pas de la dérogation une règle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tant que c'est justifié par un besoin ou bien que ça reste exceptionnel, il n'y a pas de problème. Dieu, il aime qu'on prenne ses dérogations, pas de souci. Mais il ne faut pas que ça soit habituel. Il ne faut pas faire de la dérogation une règle et de la règle une dérogation. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Mais avoir... je suis chez moi, en plein hiver, voilà, laver mes pieds, c'est contraignant. Voilà, c'est contraignant. Donc je veux aujourd'hui essuyer sur mes chaussettes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Au contraire, il n'y a pas de souci. Là. Mais ne pas en faire une habitude. Donc ça, ce sont les ablutions minimales. Donc là, on a parlé du minimum. Mais je vous ai dit qu'il y a autre chose en islam. Vous avez le minimum et vous avez quelque chose qui s'appelle la dérogation et voire même l'exception. L'exception. Et l'exception dans le domaine des ablutions, c'est quoi? Non, ça c'est un cas extrême. Prier sans rien, c'est un cas extrême qu'on va évoquer juste après. Non. L'exception, c'est de faire le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, les ablutions pulvérales sur la peau. Donc, vous avez en islam une facilité, c'est que quand tu n'as pas la possibilité, ou quand tu es dans la contrainte, et en fait, ça, c'est dans deux cas, hein, pour faire... pour être exhaustif, on va avoir recours aux ablutions sèches, au tayammum, dans deux cas. Quand il n'y a pas d'eau, donc l'absence d'eau, ou bien qu'on est dans l'incapacité d'utiliser l'eau. Donc vous avez deux cas. Soit l'eau n'est pas là, soit elle est là, mais il y a quelque chose qui m'empêche de l'utiliser. Donc deux cas. On va prendre le premier cas, quand il n'y a pas d'eau. C'est très possible. Il se peut que, peut-être pas ici en France, mais moi, personnellement, en Égypte, quand j'y étais, parfois il y avait des coupures d'eau dans un quartier. Hein, et parfois, plus qu'un quartier, où il n'y a pas d'eau. Bon, on peut se dire, on peut descendre et aller acheter de l'eau au magasin. C'est vrai. Et entre nous, c'est ce qui est demandé. Ce qui est demandé, comme on l'a dit hein, dans le hadith. On a dit, le prophète a dit, quand je vous ordonne quelque chose, accomplissez-le selon vos possibilités. Mais selon vos possibilités, ça veut dire que tu as fait un effort et qu'à un moment donné, tu n'es plus capable. Ce hadith, il ne faut pas le comprendre sous un... C'est-à-dire que certains laxistes vont prendre le hadith et vont dire, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire d'effort. Il y a une coupure d'eau, je ne vais même pas chercher s'il y a de l'eau au magasin ou s'il y a de l'eau chez le voisin. Non, il n'y a pas d'eau, tout de suite je fais tayammum. Non, si tu as la possibilité d'avoir de l'eau, même en achetant l'eau ou en te déplaçant, tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc il y a un devoir d'effort. Une fois que tu as fait l'effort, si tu n'as pas d'eau, là tu fais tes ablutions. Bon. Maintenant, il se peut qu'il n'y ait pas d'eau du tout et que l'heure de la prière va passer. L'heure de la prière va passer, tu n'as plus d'eau. Là, tu fais tes ablutions au moyen de la terre ou de l'un de ses constituants. La pierre, le charbon, le marbre, hein, tout ce qui est de la terre. Hein, tout ce qui est dans la terre. Pas à sa surface. Enfin, quand je dis à sa surface, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire avec l'herbe ou bien un arbre ou une plante. La terre et ses constituants, non pas ce qui pousse de la terre. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pierre avec nous. C'est ça? Et on l'utilise pour faire le tayammum. Donc quand il n'y a pas d'eau, quand il y a une coupure d'eau, ou bien une personne est en voyage, elle est sur l'autoroute et elle n'a pas d'eau dans sa voiture. Rien. Et elle est dans l'autoroute. Ou bien aller sur une nationale, ou je ne sais trop où, et il doit absolument prier parce que l'heure va passer, il n'a pas d'eau, là il fera tayammum. N'est-ce pas? Maintenant, le cas le plus fréquent, c'est qu'on a de l'eau, mais il y a un empêchement. On ne peut pas l'utiliser. Dans quel cas on ne peut pas utiliser l'eau? Soit parce qu'on est malade. Utiliser l'eau, va nous rendre malades. Oui, certaines personnes ont un problème de peau, surtout en hiver. Utiliser l'eau, ça va produire, sa peau va s'écarquiller, elle va devenir rêche, puis parfois il y a du sang. Donc utiliser l'eau, c'est très douloureux pour la personne, ou des allergies. Donc ce genre de personnes qui souffrent en utilisant de l'eau peuvent avoir recours au tayammum. Bon, bien entendu, il faut qu'elles fassent l'effort de se guérir. Ouais. Et si vraiment l'eau c'est quelque chose de néfaste au niveau de sa santé, ou bien une personne qui a une forte fièvre, qui est malade, utiliser l'eau ça va soit retarder sa guérison ou augmenter sa maladie. Donc vous avez trois cas, soit ça va te rendre malade, soit tu es malade et ça va augmenter ta maladie, soit ça va retarder ta guérison. Dans ces trois cas, tu peux avoir recours au tayammum. D'accord ? Parce que Dieu ne veut pas, à travers ses adorations, nous mettre dans la gêne. Il y a toujours une facilité. Et là, je vais vous évoquer un hadith, une histoire, au temps du prophète. Des gens étaient en expédition militaire et une personne s'est levée au matin en état d'impureté majeure. Donc sûrement après une pollution nocturne. Il devait donc se laver en entier, tout son corps. Sauf qu'ils étaient en hiver, donc l'eau était très froide. Deuxièmement, et c'est surtout ça la gravité, hein, c'est qu'il était blessé au niveau de sa tête. Il y avait une blessure. Et il a interrogé des gens. Et deux personnes lui ont dit, tu dois absolument te laver. Et quand il s'est lavé, ça a touché sa plaie, il en est mort. Il en est mort. Hein, cette douche, ce bain, l'a tué. Et le prophète a dit, vous avez tué cet homme. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à des gens qui ont la science? En fait, ils ont fait une fatwa par ignorance. Hein, ils se sont prononcés sans connaître les facilités. Ce qu'ils pouvaient faire, c'est le tayammum. Mais ils ont été trop vite et ils ont été à l'origine de la mort de cet homme. Un autre cas, l'eau est présente, mais physiquement, je ne suis pas capable de l'atteindre. Une personne handicapée, d'accord ? Une personne handicapée, ou une personne, par exemple, qui est sur son lit, et si elle se lève, elle vomit, ou bien elle a la tête qui tourne. Donc l'eau est là, la salle de bain n'est pas très loin, mais se déplacer jusqu'à la salle de bain, c'est dangereux pour elle. C'est très difficile. Ou bien forte fatigue, hein, épuisement, et la personne trouve d'énormes difficultés à se lever, à faire ses ablutions, elle fait le tayammum. Ou bien, un autre cas, l'eau est présente, mais il y a un danger. Imaginez-vous, dans un pays où il y a une guerre, un état d'urgence, sortir de la maison pour aller chercher de l'eau, c'est peut-être risquer sa vie. Donc, elle fait le tayammum. Ou bien une personne, si elle va chercher l'eau, elle va laisser ses enfants à la maison. Ou bien si elle va chercher l'eau, elle a peur pour ses biens. Beaucoup de cas comme ça qu'on pourrait énumérer ou inventer même, où utiliser l'eau, c'est possible, mais c'est dangereux pour ma santé, pour mes biens, pour mes enfants, etc. Donc dans tous ces cas, à chaque fois qu'on sera dans la difficulté et dans la gêne, on aura recours à quoi ? Au tayammum. Et le tayammum, c'est le fait d'utiliser, comme on a dit, la terre ou une pierre ou un composant de la terre. Et on, par exemple, si c'est la terre, on la touche avec ses deux mains et puis on frotte, parce que le but c'est pas de se mettre de la terre sur le visage, hein, c'est de toucher la terre. On s'essuie les mains, on frotte comme ça, hein, ensuite on s'essuie les deux mains et le visage. Voilà. Hein, une fois qu'on a fait ça, on a ses ablutions et on peut prier.
Mais les ablutions, ils sont que pour la prière, avec le tayammum, non ?
Oui.
Ou pour les actes, genre...
De refaire à chaque prière.
Ouais, voilà.
Ouais. Est-ce qu'ils sont que pour la prière que tu vas faire ?
Ah oui, oui, oui. Non, j'ai compris la question. Est-ce que les ablutions au moyen de la terre ont le même statut juridique que les ablutions au moyen de l'eau ? Est-ce qu'on peut faire la même chose ? Non, il y a des différences. Comme c'est un moyen exceptionnel, il ne sera pas aussi comment dire, il ne sera pas pareil que les ablutions. Mais je ne vais pas rendre ce cours un cours juridique, parce que si on entre dans ça, on va entrer dans beaucoup de questions juridiques. Mais en résumé, le tayammum, on ne fait qu'une prière avec, d'accord, une prière obligatoire. Et si il y a de l'eau, on doit utiliser l'eau. C'est-à-dire qu'on perd ses ablutions, pas simplement quand on fait tayammum. Oui, j'ai fait tayammum, j'ai prié le dhuhr. Pour prier l'asr, je dois refaire tayammum. Mais si je fais tayammum pour prier l'asr et l'eau revient, j'ai fait, normalement j'ai mes ablutions, là je peux prier. Mais comme l'eau est revenue, là je dois, le tayammum devient caduque et j'utilise l'eau. Et il y a d'autres différences. Maintenant, il se peut que je sois dans la voiture et que je n'ai pas pensé à prendre une pierre avec moi. D'accord ? Donc je suis au volant et je veux prier parce que l'heure va passer. Là, vous avez deux cas de figure. Ou bien votre voiture, vous allez très très propre, il n'y a aucune poussière, et là je vais en parler juste après, ou bien votre voiture, comme pratiquement toutes les voitures, il y a de la poussière. S'il y a de la poussière, vous êtes sauvé. Vous passez votre main sur le tableau de bord, ou bien sur le tapis qui est en bas, et vous considérez que c'est de la terre. Enfin, parce que la poussière vient de la terre. Donc, essuyer la poussière et faire le tayammum avec, c'est bon.
On la lave plus.
On la lave plus. C'est pour ça que tu ne la laves jamais. Bon, maintenant, un cas exceptionnel, ce ne sera pas le cas de la voiture, parce que généralement, il y a de la poussière. Et même si on frappe le siège, il y a de la poussière qui sort. Le cas où une personne est à l'hôpital et elle ne peut pas bouger et elle n'a pas de pierre ou de... Elle ne peut pas bouger. Donc elle ne peut ni utiliser l'eau, ni utiliser la terre, ni faire ses ablutions moyen de l'eau, ni faire le tayammum. Alors, que fait-elle? Le hadith nous dit, quand je vous ordonne quelque chose, faites-le selon vos possibilités, comme vous pouvez. Cette personne ne peut pas faire le wudu au moyen de l'eau, il ne peut pas faire le tayammum. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire? Juste la prière. Alors cette personne fera juste la prière. Même si elle n'a pas fait ses ablutions, comme c'est un cas exceptionnel et qu'elle ne peut pas faire ses ablutions, selon ce même principe, que Dieu ne nous demande que ce qui est dans nos possibilités, cette personne ne fera que la prière. D'accord? Ou une personne qui est en prison, elle a les mains attachées, menottées, en garde à vue, je ne sais pas, et il ne peut pas faire ses ablutions, ni au moyen de la terre, ni au moyen de l'eau. Il doit quand même prier. Comment fait-il? Il prie comme ça. Et il n'aura pas à rattraper après. Hein. C'est-à-dire qu'après, il n'aura pas à rattraper. Ce que Dieu lui a demandé, dans sa situation qui est la sienne, de prier comme il peut. Une fois qu'il a fait ce qui lui a été demandé, c'est de prier comme il peut, il est dégagé de toute responsabilité. Donc on ne va pas lui dire, eh ben tiens, une semaine après, maintenant tu as de l'eau, tu rattrapes ta prière. Non. Une fois qu'il l'a faite comme il pouvait, c'est suffisant pour Dieu. C'est ce que Dieu demande, que tu fasses l'effort. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Ça aussi, c'est une question qu'il faut aborder. Parce que là aussi, on va se rendre compte que parfois, on pense que certaines choses annulent les ablutions alors que ce n'est pas forcément vrai. Et on se met dans la difficulté et la gêne. Ce qui annule les ablutions, bien évidemment, c'est tout ce qui sort des deux orifices. C'est-à-dire l'urine, les excréments, le gaz. Et chez l'homme, le liquide prostatique. Hein, ce qui sort généralement avant l'urine ou après l'urine, ou c'est un liquide, un liquide visqueux qui sort chez l'homme. Lui aussi, il annule les ablutions. Puis vous avez le liquide qui vient avant l'éjaculation chez l'homme. Donc celui-là, ce n'est pas le liquide spermatique, hein, mais c'est quelque chose qui sort avant pour nettoyer l'urètre, le convoi, le conduit. Donc celui-là également, et généralement ça sort chez l'homme quand il y a après une érection ou ce qu'on appelle les préliminaires, donc c'est un liquide qui sort, lui il annule les ablutions. Et puis vous avez bien évidemment le liquide spermatique qui lui, non seulement il annule les petites ablutions, mais il impose même les grandes ablutions. Et puis chez la femme, il y a également l'éjaculation chez la femme qui va annuler ses ablutions et également lui demander d'accomplir ses grandes ablutions. Et puis ensuite, vous avez le sommeil. Le sommeil. Et là, je pense que vous avez tous à peu près une idée par rapport au sommeil. Certains doivent se dire, à partir du moment où je m'endors, je dois recommencer mes ablutions. Certains parlent du sommeil profond, n'est-ce pas ? Certains parlent de la position du dormeur. Si vous voulez, il y a de la divergence. Le sommeil qui annule les ablutions, il y a de la divergence. Moi, personnellement, je penche pour l'avis qui prend comme critère de référence dans le type de sommeil qui annule, enfin, pas le type de sommeil, non. Le sommeil qui annule, le critère, ce n'est pas la profondeur ou la légèreté du sommeil, mais c'est la position du dormeur. Bon, moi, je pense pour cet avis, c'est un avis chez les savants, c'est celui que j'ai trouvé le plus convaincant. C'est à partir du moment où tu n'es pas allongé, même si tu dors profondément, tes ablutions ne sont pas annulées. Donc si tu t'endors dans ta banquette arrière, dans les transports, tant que tu ne t'es pas allongé, tes ablutions ne sont pas annulées. Pourquoi ? Parce que le sommeil en lui-même n'annule pas. Ce qui annule, c'est la possibilité qu'il y ait un gaz. Possibilité qu'il y ait un gaz ou autre chose durant le sommeil. Et comme on n'est pas conscient, on ne sait pas ce qui se passe. Simplement, quand on est en position assise ou debout et qu'on s'endort, nos membres sont contractés et il n'y a pas de sortie de gaz. C'est-à-dire qu'il y a sortie de gaz quand les membres sont décontractés, c'est-à-dire quand on est allongé. Voilà. Et en plus, il y a un hadith de Anas ibn Malik qui dit que lors de la prière de l'Aïcha, juste avant la prière de l'Aïcha, le prophète s'était retardé. Et les compagnons l'ont tellement attendu qu'ils se sont assoupis. Et certains, le dit Anas, étaient appuyés dos contre les poteaux, les pylônes de la mosquée, et leur menton touchait leur poitrine. Ils s'endormaient. Donc, à partir de là, certains vont dire, bah, finalement, c'était un sommeil léger, puisqu'ils faisaient comme ça. Et d'autres diront, ben là ils étaient assis. Parce que quand le prophète est revenu, Anas dit, ils se sont levés, ils ont prié sans recommencer leurs ablutions. Donc certains vont dire, là c'était un sommeil léger, et d'autres vont dire, non, c'était peut-être même un sommeil profond, que ce qu'on en sait. Peut-être qu'ils sont endormis profondément. Mais ils étaient assis. Et quand on est assis, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Donc ce qui annule, selon l'avis que je trouve le plus pertinent, c'est quand on dort allongé. Ensuite, vous avez la perte de connaissance. Ça annule les ablutions, puisque quand on perd connaissance, bah forcément, on tombe, on n'est plus debout, puis on est décontracté. Donc là, il peut y avoir un gaz, à plus forte raison. Ou bien un état d'ivresse, ou d'inconscience, si vous voulez, après la prise d'un médicament ou un accident, quand on perd connaissance, ou on est dans un état second, qu'on ne sait pas ce qui se passe, et qu'on est dans une certaine position, ben voilà, ça annule les ablutions. Après, vous avez d'autres savants qui disent, le fait de toucher pour l'homme, ou bien pour l'homme et la femme, le fait de toucher son organe génital, surtout pour l'homme, avec sa main. Donc de peau à peau. Selon certains savants, ça annule les ablutions. D'autres savants disent le fait de toucher une femme, même son épouse, avec sa main, donc de peau à peau, ça annule. Certains disent ça. D'autres disent non. S'il y a l'intention d'éprouver un plaisir ou la sensation d'un plaisir, ça annule. Et d'autres disent non. Ça n'annule pas du tout, puisqu'il n'y a rien qui est sorti. Pourquoi est-ce que ça annule ? Enfin bref, vous avez des causes annulatrices, des ablutions qui font divergence. Le mieux, à mon avis, le mieux, c'est de prendre la précaution. La précaution, quand on est en état, quand on est dans une situation normale, c'est mieux de refaire ses ablutions. Hein, surtout qu'il y a de la divergence, hein, donc il vaut mieux refaire ses ablutions. N'est-ce pas ? Mais si ça nous met dans la contrainte, prenez l'avis le plus facile et qui est selon moi le plus convaincant. Donc le fait de toucher, pour l'homme ou la femme de toucher le sexe opposé, ça n'annule pas les ablutions. Ça, c'est l'avis que je trouve le plus pertinent, le mieux argumenté, le plus vrai, c'est que ça n'annule en rien les ablutions. Maintenant, si quelqu'un veut prendre la précaution et qu'il veut recommencer ses ablutions, pourquoi pas ? C'est comme il veut. À plus forte raison, le fait d'embrasser. Si un homme embrasse son épouse, hein, il n'a pas recommencé ses ablutions. D'accord ? Certains vous diront si, hein, mais moi, l'avis que je trouve le plus juste, c'est que ça n'annule pas les ablutions, puisqu'il n'y a rien qui est sorti. Hein, rien n'est sorti. Maintenant, on va parler de la prière et on termine par ça. Pour prier, il faut d'abord prier à l'heure. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Maintenant, il y a une certaine facilité dans les horaires de prière, puisque c'est pas à une heure précise, mais c'est une plage horaire. Par exemple, aujourd'hui, ou plutôt, en hiver, là, vous avez par exemple le Asr, donc la prière de l'après-midi, hein, qui commence vers 15h, c'est ça ? Vers environ 15h, et le Maghrib qui est vers 18h. D'accord ? Donc de 15h à 18h, vous avez 3h pour prier le Asr. Et le Dhuhr de 13h, je ne sais pas, hein, 13h, c'est ça, 13h à 15h pour prier le Dhuhr. Maintenant, la facilité, c'est que on peut rassembler le Dhuhr et le Asr, donc les deux prières de l'après-midi, en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. C'est-à-dire, si le Dhuhr il a une heure, je peux, si besoin est, prier le Dhuhr et le Asr, et aller au travail, ou aller à l'école, ou prier durant ma pause, comme ça je suis tranquille. Ou bien, si je rentre tôt à la maison et que le Maghrib est tard, je prie le Dhuhr et le Asr chez moi, avant que le soleil ne se couche. Vous avez cette facilité de quoi ? De rassembler ces prières, soit en début de l'heure, soit en fin de l'heure. Même chose pour le Maghrib et le Isha, surtout pour ceux qui travaillent de nuit, peuvent prier juste après le Maghrib, le Isha, et ils sont tranquilles jusqu'au lever du soleil, ou jusqu'à l'aurore. Ou bien, ils retardent le Maghrib, ils le prient juste avant l'aurore, juste avant le Fajr, avec le Isha. Donc il y a cette souplesse qu'on peut utiliser quand on est en difficulté, surtout hein, nous aujourd'hui dans notre société, avec les complications que l'on connaît. Donc il y a cette facilité. Donc ça c'est par rapport à l'heure. Maintenant, prier le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha, tout en même temps, à la fin de la journée, en rentrant le soir du boulot ou de l'école, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, on l'avait dit, hein, le plus important dans la prière, c'est l'heure. La concentration, elle vient au second plan. La concentration, c'est selon nos possibilités. L'heure, il n'y a pas selon nos possibilités. L'heure, c'est l'heure. Maintenant, la concentration, selon nos possibilités. Les gestes, selon nos capacités. L'heure, non. Parce que comme on l'avait dit, la prière, c'est comme un médicament. Si le médecin te prescrit de prendre un médicament à des horaires précises dans la journée, tu ne peux pas prendre toutes les doses à la fin de la journée ou en début. Parce que ça n'aurait pas l'effet demandé. Au contraire, ça peut nuire à ta santé. Même chose pour la prière. La prière, c'est comme un remède ou un médicament. Il faut que tu le prennes à des moments précis dans la journée. Maintenant, il y a des conditions pour prier. C'est d'avoir ses ablutions, et ça, on en a parlé, mais également de ne pas porter sur soi une souillure. Il ne faut pas que sur tes vêtements, tu aies une najasa, une souillure. Et non, et également, il ne faut pas que l'endroit dans lequel tu pries, il ne faut pas qu'il y ait une souillure. Bon, l'endroit où tu pries, il ne faut pas qu'il y ait une souillure. Sur tes vêtements, il ne faut pas qu'il y ait une souillure ou sur ton corps. La souillure, c'est quoi? On l'a dit, c'est l'urine, l'excrément, c'est le sang pour certains savants, le sang, c'est une souillure pour certains savants. Je pense que ce sont les souillures que l'on peut rencontrer. Maintenant, le chien n'est pas une souillure. Le chien n'est pas... Ses excréments, oui. Son urine, oui. Hein, on doit s'en débarrasser avec de l'eau si on est touché par... On a marché sur une crotte de chien ou je ne sais trop quoi. Maintenant, ses poils ne sont pas souillés. Si un chien te touche avec sa patte, il t'a reniflé, il t'a collé... Tu n'as pas à laver ton pantalon ou à l'essuyer. Tu peux prier comme ça. Le chien n'est pas une souillure complète. Non. Maintenant, pour les mamans, ou bien même pour les papas, hein, quand ils prennent leurs enfants, il se peut que l'enfant vomisse. N'est-ce pas? Et quand il vomit, donc certains savants disent que la vomissure, le vomi de l'enfant, est une souillure. Et certains disent non. D'accord, certains disent non, c'est pas une souillure. Il se peut qu'en portant l'enfant, sa couche soit remplie d'urine et que ça déteigne sur ses vêtements, sur nos vêtements. Bon. L'enfant, tant qu'il boit du lait, tant qu'il allaite, son urine n'est pas une souillure complète, c'est une souillure allégée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, en tant que maman, quand tu as porté ton fils que tu allaites, quand on dit allaite, c'est-à-dire qu'il ne boit que du lait, hein, mais s'il commence à manger, c'est autre chose. Ou quand il est sevré, c'est autre chose. Là, il devient comme un adulte, son urine est à éviter et à laver. Mais si c'est un petit enfant, hein, quelques mois, et qu'il ne boit que du lait, et son urine vient sur nos vêtements, il nous suffit, comme l'a fait le prophète, de l'asperger avec de l'eau. Pas de la laver, mais asperger avec de l'eau. Et ça, c'est une facilité. Surtout pour les mamans ou les nourrices, c'est une facilité. Maintenant, vous avez une règle. Comme ça, on ne va pas entrer dans les détails, il y a une règle, c'est qu'à chaque fois que la souillure sera difficile à extraire ou à laver, ou qu'on est fréquemment en contact avec une souillure, il y aura une dérogation. Comme une personne, une nourrice, ou bien une personne qui s'occupe des enfants en bas âge, et qui est en contact avec des enfants sales, enfin des enfants sales, des enfants avec du vomi, ou avec de l'urine, des excréments. Lui demander de changer ses vêtements à chaque fois qu'elle est touchée par une urine, un vomi ou un excrément, ça va la mettre dans la difficulté. À chaque fois qu'une personne sera en contact avec une souillure, de manière fréquente, et que ça va être difficile pour elle de s'en débarrasser, les savants disent qu'il y a une dérogation pour elle. Comme un boucher. Un boucher, il est en contact avec le sang. Donc lui, il n'a pas à changer ses vêtements. Il peut prier avec le sang qu'il a sur lui. Comme ça se passait au temps du prophète, quand les gens étaient sur le champ de bataille. Forcément, quand ils étaient blessés, ils avaient du sang. Donc, ils priaient comme ça, avec le sang de leurs blessures. Voilà, après, vous avez d'autres cas, mais je vous laisse chacun appliquer cette règle dans des cas particuliers. À chaque fois que la souillure sera difficile à retirer, qu'on sera fréquemment en contact avec elle, on pourra prier avec. Ça, c'est. Voilà, on a dit, il faut se purifier, faire ses ablutions, il faut purifier ses vêtements et l'endroit où l'on prie des souillures. Troisième condition, il faut être dans la direction de la Mecque, la Qibla. Il se peut que, dans ma vie quotidienne, je ne sois pas capable de prier dans la bonne direction. Parce que je suis en transport, parce que je ne connais pas la direction. Je peux être dans un endroit, je n'ai pas de boussole, je n'ai pas l'application sur mon portable, et je ne connais pas la Qibla. Et je ne sais pas me repérer naturellement. Là, je prie comme je peux. Je prie dans n'importe quelle direction. Maintenant, si quelqu'un me trouve dans une mauvaise direction et qu'il me dit en pleine prière, tu n'es pas dans la bonne direction, il faut que tu te tournes. Je me tourne en pleine prière. Je n'ai pas à m'arrêter ou à recommencer. Oui ?
Je dois partir, juste une question.
Oui ?
Pour le voyageur. Question. À partir de quel moment on est voyageur ?
À partir de quel moment on est voyageur ? Et c'est lié à ce qu'on dit, puisque le voyageur, il a des facilités au niveau de la prière. La majorité des savants mettent une distance. Donc tu es en voyage à partir d'une certaine distance. La majorité des savants disent à peu près 80 km. Dès que tu dépasses les 80 km, ou que tu es en route dans un voyage qui va être long, qui dépasse 80 km, tu pourras avoir recours aux dérogations qui sont écourter la prière et les rassembler. D'accord ? Ça, c'est la majorité des savants. Maintenant, vous avez un autre avis qui est également fondé, hein, qui est également fondé. C'est qu'ils ne vont pas mettre une distance particulière, mais ils vont dire, à partir du moment où tu es en voyage, et c'est toi qui sais si tu es en voyage, à partir du moment où tu pars en voyage, tu peux avoir recours à cette dérogation. D'accord ?
Quand on part en vacances.
Quand on part en vacances.
À un moment donné, on reste sur la même place.
Donc maintenant, jusqu'à quand je peux utiliser ? Non, ça c'est une autre question, c'est pas à partir de quand je suis en voyage, mais jusqu'à quand je suis considéré comme voyageur ou comme résident. Là aussi, les savants mettent une période, la majorité. Alors, certains disent 4 jours, ou si vous voulez, de quoi prier 20 prières. Si tu pars en vacances, tu as dépassé les 80 km, et tu vas rester une semaine. Une semaine, c'est plus de 4 jours. Donc dès que tu arrives, tu deviens résident, selon la majorité des savants. Certains disent 3 jours, certains 4 jours, certains disent 15 jours, et certains ne mettent pas de limite. Ils disent, tant que tu es en voyage, tu es un touriste, si tu veux, tu n'es pas chez toi, tu pourras appliquer les dérogations. D'accord ? Et moi, personnellement, je dis, dans ces questions d'adoration, le mieux pour le croyant, et ça on en a parlé dans un hadith précédent, dans les questions divergentes, le mieux c'est la précaution. Le mieux c'est la précaution. Surtout quand c'est pas compliqué. Quand c'est pas compliqué, on est capable de prier à l'heure, de manière complète, dès qu'on dépasse le 3 jours. Donc si c'est possible, on n'est pas dans la gêne, autant prier de manière normale, pour respecter l'avis majoritaire. Maintenant, dans certains cas, où on est vraiment dans la gêne, je vais vous donner un cas concret, une personne qui est cardiologue mais qui est en déplacement. Il est parti à un séminaire dans un pays très lointain. Et il est parti pour une semaine dans un colloque, un séminaire, en tant que cardiologue. Et c'était très difficile pour lui, parce qu'il y avait des séminaires, des conférences, puis il se déplaçait, il n'était pas chez lui, les horaires ils étaient plus pareils, c'est pas comme la France. Bref, c'est une situation instable et c'est le propre du voyage, c'est que tu n'es pas chez toi. Tu maîtrises ni ton temps, ni ton espace. Parce que la prière, ça demande quoi ? Un espace où prier, un endroit, et une gestion du temps. Quand tu es en voyage, tout est bouleversé. Ton temps et ton espace. Donc lui, pendant une semaine, il était bouleversé. Donc pendant une semaine, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écourté et rassemblé. Et il a raison. Il a raison. Parce que c'est le propre même de la dérogation, c'est en temps de gêne. Et on ne peut pas dire qu'au-delà de 3 jours, tu n'es plus dans la gêne. C'est pas vrai. Parfois, pendant 15 jours, je ne sais pas moi, un commerçant, pendant 15 jours, il va... Donc moi, je dis, ça dépend de ta situation. Si tu es en situation instable, que prier les 4 rak'at de manière complète et aux horaires indiqués, ça, c'est très gênant, c'est difficile. Prends la dérogation. D'accord ? Surtout que c'est un avis fondé. C'est un avis fondé. Voilà. Alors, il reste une condition. Bon, la qibla, on disait, il se peut que tu sois en voiture, que tu ne peux pas descendre. Donc tu pries en ayant les yeux sur la route, en tenant le volant et en tournant. Parce que si tu es sur l'autoroute, par chance, tu peux être dans la bonne direction, mais il est fort possible que tu ne sois pas dans la bonne direction, et puis que tu tournes. D'accord ? Donc, La qibla, c'est quand on peut. Si on ne peut pas, on prie dans n'importe quelle direction et on n'aura pas à recommencer la prière plus tard. Parce que le prophète a dit, ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure de vos possibilités. Donc s'il ne m'est pas possible d'être dans la bonne direction, je suis dans le train, je suis en avion, dans le transport en commun, je prie comme je peux. Toujours de manière discrète. Toujours de manière discrète.
Et les surérogatoires, c'est n'importe.
Hein. Les prières surérogatoires, il est bien de prier dans la qibla. C'est la règle. Mais la prière surérogatoire, il y a plus de facilité. On peut ne pas prier dans la bonne direction. Les prières surérogatoires, quand on est en mouvement, en déplacement, comme faisait le prophète, quand il était sur sa chamelle, il priait des prières surérogatoires sur le dos de sa chamelle. Sa chamelle se tournait à droite, à gauche, il priait sur le dos de sa chamelle. Donc prière surérogatoire, c'est encore plus facile. Il n'y a pas l'exigence, elle est moindre. Il nous reste une dernière condition, c'est de couvrir sa nudité. Puisque prier, c'est aussi prier en respectant la personne devant qui on prie, ou la divinité devant, enfin Dieu, si vous voulez, notre Créateur, il faut s'habiller d'une certaine manière. Couvrir sa nudité, chez l'homme, c'est entre le nombril et les genoux. Donc l'homme qui prie devra absolument couvrir la partie de son corps qui est située entre son nombril et ses genoux. D'accord ? Maintenant, en temps normal, il lui est demandé de prier même en couvrant son torse. Hein. C'est-à-dire que si je suis à la plage, je suis en short, un short qui couvre cette partie, et que je peux mettre un maillot et prier, je mets un maillot et je prie. C'est toujours mieux de se couvrir. Maintenant, si j'ai laissé mon maillot, il est loin, j'ai marché dans la plage, et qu'il est l'heure de la prière, je fais mes ablutions avec l'eau de la plage, la mer, et je prie comme ça. Et ma prière est valide. Quant à la femme, elle doit couvrir la totalité de son corps, excepté son visage et ses mains. Et chez certains savants, ses pieds. Elle peut découvrir ses pieds, ses mains et son visage. Donc elle doit être voilée pour prier. Maintenant, il se peut qu'elle ne puisse pas être voilée pour prier. N'est-ce pas ? Il se peut que dans sa vie quotidienne, les contraintes font que elle ne peut pas porter son voile, mais elle doit quand même prier. Et bien elle prie comme elle peut. Elle prie comme elle peut. C'est-à-dire, si elle ne peut pas mettre son voile, elle ne le met pas, mais elle prie quand même. Elle ne devra pas se dire, je prierai à la maison en portant mon voile. Non. Parce que si tu pries chez toi en portant le voile, l'heure va passer. Et on a dit que l'heure, c'est ce qui est le plus important. Ou bien une personne qui est malade à l'hôpital et elle a ses cheveux découverts. Ou bien une partie de son bras découvert. Ou une partie de ses cuisses découverte. D'accord ? Donc, quand on ne peut pas se couvrir, on prie comme on peut. Et c'est la règle. C'est la règle dans tout ce qu'on a dit, si vous voulez. C'est, on fait nos ablutions comme on peut, on fait le tayammum comme on peut, on fait la prière comme on peut, et Dieu ne nous impose que ce qui est dans la mesure de nos possibilités. Et le prophète a dit dans le hadith, et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. Ça, c'est l'esprit de l'islam qui tend à la facilité, à la souplesse, en même temps qu'il nous demande en temps normal de tendre vers l'idéal. Donc en temps normal, on essaie d'être les plus parfaits, l'idéal. Dans de certaines situations, on revient au minimum, ou bien on a recours aux exceptions et aux dérogations. Donc finalement, on n'a plus d'excuses pour ne pas prier. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour en arriver à une conclusion. C'est que c'est tellement simple que tu ne pourras pas dire « je ne pouvais pas prier ». Moi, c'est ça. Moi, je veux qu'on arrive à ça. C'est tellement simple que tu ne pourras pas dire « je ne pouvais pas prier ». D'accord ? Mais il faut le savoir. certaines personnes se mettent dans la contrainte par ignorance. Donc maintenant vous savez que prier ce n'est pas si difficile, faire ses ablutions ce n'est pas si difficile, à vous de faire l'effort, ou à vous d'avoir la volonté de prier. Et Inch'Allah, Dieu vous facilitera. Il l'a déjà fait à travers ses règles. Voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, on abordera la deuxième partie du hadith, et on en aura fini avec ce hadith. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.